Les mystères du Palais Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 40. Tête Foulque. Le commandeur poursuivit. J'ai repris mes sens dans une sorte de hutte enfumée. J'étais étendu en face d'un feu de tourbe et de bruyère sèche, dans un fauteuil rustique fait de branches d'arbres et d'écorces. À côté de moi se tenaient debout un homme et une femme, noirs tous les deux de la tête aux pieds, de visage et de vêtements. Je crus d'abord que ces deux personnages appartenaient à la race des êtres fantastiques dont on m'avait parlé. Mais cette erreur ne dura pas longtemps. Aussitôt que j'ouvris les yeux, la figure masculine, dont les regards étaient fixés sur moi, me montra ses dents blanches dans un large sourire et me dit d'un air de bonhomie et d'intérêt. « Comment vous trouvez-vous, messire pèlerin ?» Je lui répondis que je n'éprouvais d'autre souffrance qu'une assez vive douleur au genou, et je lui demandai comment il se faisait, qu'après m'être évanoui dans un sentier de la forêt, je me réveillasse dans une chaumière. Sa réponse fut simple. Il était bûcheron et gagnait sa vie à fabriquer du charbon, qu'il vendait ensuite à Poitiers. Il avait passé la journée, comme de coutume, à visiter ses fourneaux, et le soir, en regagnant sa demeure, il avait heurté du pied un objet inerte étendu sur le sol. Cet objet, c'était mon corps. Il m'avait relevé charitablement et apporté jusque chez lui. Je le remerciai d'avoir accompli cette bonne œuvre. Il m'offrit de partager le frugal repas que sa femme avait préparé. J'acceptai de grand cœur. Pendant le souper, je lui demandai ce qu'il pensait des hôtes mystérieux dont la forêt était peuplée, disait-on. Il avait entendu bien souvent parler de ces bruits, mais n'avait jamais rien vu qui pût les confirmer. D'ailleurs, sa conscience ne lui reprochait rien, et il ne croyait point que Dieu permît aux esprits infernaux de lui faire du mal à lui, qui n'en avait fait à personne. Je lui demandai ensuite quelle distance il y avait de sa chaumière à tête foulque. « 2 heures de chemin à peine, » me répondit-il. « Voulez-vous m'y conduire ?»« Volontiers, messire pèlerin. » « Demain, dès l'aube du jour, nous nous mettrons en route. »« Ne pouvez-vous donc m'y conduire ce soir ?»«
Ce soir ? » répéta-t-il.
« Oui. Impossible.
Pourquoi ?»«
D'abord, dans l'obscurité, il nous faudrait 4 heures tout au moins au lieu de 2. Ensuite, en supposant que nous arrivions jusqu'au château, nous ne pénétrerions point dans l'intérieur. »«
Qui nous en empêcherait ?»
Les portes que nous trouverions fermées.
Ne nous ouvrirait-on pas?
Non.
Les gardiens sont-ils donc à ce point inhospitaliers?
Le château n'a d'autres gardiens qu'un vieux concierge et un saint ermite.
Eh bien,
dès la tombée du jour, le concierge ferme les portes et s'endort. Les vieilles gens ont le sommeil dur. Il ne nous entendra point. Quant à l'ermite, il prie, dit-on, dans la chapelle et ne se dérangerait pas. Vous voyez que ce que nous avons de mieux à faire est d'attendre à demain. Je me rendis à des raisons si concluantes. On étendit dans un coin de la chambre une jonchée de fougères sèches. Je me jetai tout enveloppé de ma robe de pèlerin sur cette couche improvisée et je ne tardai point à m'y endormir d'un sommeil profond. Ainsi qu'il l'avait promis, le bûcheron m'éveilla dès le matin.
« Messire pèlerin, me dit-il, si vous voulez, nous nous mettrons en route. »
Je me levai aussitôt et je m'aperçus avec un vif chagrin que ma blessure de la veille me faisait horriblement souffrir. Mon genou s'était gonflé pendant la nuit et toute ma jambe me paraissait engourdie et comme morte. Cependant, je voulais arriver. J'imposai silence à ma douleur et je me mis en marche à la suite de mon guide. Quoique appuyé sur mon bâton de pèlerin, je boitais tout bas et j'avançais si lentement et avec tant de peine qu'au bout de 5 heures seulement, nous arrivâmes à l'entrée d'une clairière d'où l'on découvrait le château de Tête Foulque. Je n'avais plus besoin de mon guide. Je lui mis dans la main quelques pièces d'or, qu'il accepta avec une profonde gratitude, et je le congédiai en le remerciant encore. Ensuite, je continuai ma route. Le château de Tête Foulque était une immense construction, fortifiée et entourée de fossés larges et profonds. Les hautes murailles, grises et moussues, avait une physionomie sinistre et désolée. 4 grosses tours qui baignaient leur base dans l'eau verdâtre des fossés
flanquaient les quatre angles du château. Les clochetons aigus de la chapelle profilaient au-dessus des toits leurs vives arêtes et leurs girouettes armoiriées. Cette masse morne et silencieuse attristait le regard. Pas un être vivant ne se montrait dans les alentours. Pas un bruit ne s'en échappait. C'était la tranquillité froide et lugubre d'un tombeau. On devinait du premier coup d'œil une maison abandonnée et presque déserte. On eût dit l'un de ces châteaux maudits dont parlent si souvent les romans de chevalerie. Je traversai un pont-levis jeté sur les fossés et j'arrivai jusqu'à l'entrée d'honneur. Une chaîne de fer servait à mettre en mouvement une cloche placée à l'intérieur. J'agitai cette chaîne. Le son de la cloche retentit aussitôt et fut répété d'une façon presque sépulcrale par les échos des larges cours et des grands escaliers. Il se passa quelques minutes avant qu'on répondît à mon appel. Enfin, j'entendis un pas pesant qui s'approchait avec lenteur. Une petite porte, pratiquée dans l'un des vantaux de la grande, tourna sur ses gonds, et je vis un vieillard, tout cassé par l'âge, tout courbé, couronné de grands cheveux blancs comme la neige, et vêtu comme on l'était du temps de votre bon roi Henri IV. « Que voulez-vous ? » me demanda-t-il d'un air sombre. « Je voudrais entrer au château. »« Le château est désert et ses maîtres sont morts. Vous n'avez rien à faire ici. » Et il fit mine de refermer la porte sur moi. Je l'arrêtai vivement. « J'ai fait un vœu, lui dis-je, un vœu qui intéresse le repos de l'âme de votre dernier maître, Foulque de Foulquer. Et il faut pour accomplir ce vœu que je voie l'ermite de tête Foulque. » « C'est différent, murmura-t-il. Entrez !» Et il me fit place. La cour dans laquelle je me trouvais était immense et entourée comme un cloître de longues galeries à arcades. Le vieillard se tourna vers moi et reprit. « L'ermite est à la chapelle, venez, je vais vous y conduire. » Je le suivis. Il me guida à travers un dédale d'escaliers et de corridors. L'extérieur du château était dans un état de conservation parfaite, grâce sans doute à l'épaisseur et à la solidité des murailles. Mais je ne saurais vous donner une idée exacte du délabrement intérieur. Partout les dalles étaient disjointes, les planchers s'effondraient, les voûtes menaçaient ruine. Aucune fenêtre, pour ainsi dire, n'avait conservé ses vitres, et les oiseaux de nuit nichaient en liberté dans les salles et dans les corridors. C'était un spectacle de désolation. À mesure que nous avancions, j'entendais plus distinctement une voix gémissante qui psalmodiait les mélodies funèbres de l'office des morts. Bientôt, je pus reconnaître les versets du De Profondis. Ces chants de deuil m'impressionnèrent douloureusement et me semblèrent du plus triste présage. Le vieillard ouvrit une porte et m'invita à entrer dans la chapelle, où il ne me suivit pas. L'ermite, qui était chargé de desservir, ou plutôt de nettoyer cette chapelle, s'acquittait bien mal de ses fonctions. Car là, plus encore qu'ailleurs, tout était à l'abandon, de la façon la plus déplorable. Une sorte de végétation humide poussait entre les dalles. Les boiseries sculptées et presque pourries se détachaient de la muraille. Les draperies de l'autel pendaient déchirées. On avait remplacé une portion du vitrail avec la toile d'un vieux tableau. L'ermite chantait toujours. Il était vêtu d'un lambeau de surplis sur une soutanelle en mauvais état. Il me parut jeune encore, mais rendu hâve et décharné sans doute par les macérations et les abstinences. Je m'agenouillai et j'attendis en priant tout bas qu'il eût achevé l'office des morts. Il arriva au dernier verset. Alors je répondis « Amen ». Il se tourna vers moi et me demanda, ainsi que me l'avait demandé le vieux concierge, « Que voulez-vous ? » « Je viens ici, lui dis-je, pour accomplir un devoir de conscience. Lequel ? J'ai fait un vœu. Dites-moi ce vœu. C'est de faire célébrer, dans la chapelle où nous nous trouvons, 100 messes pour le repos de l'âme du commandeur Foulque de Foulquer, tué en duel à l'île de Malte. C'est bien, répondit l'ermite. Je pris dans ma bourse 100 pièces d'or et je les posai sur l'autel vermoulu. Puis j'ajoutai, vous chargez-vous, mon père, de célébrer ces messes ? Moi-même, non. Je n'ai reçu que les ordres mineurs, et je ne dis jamais la messe. mais je vous promets d'en faire acquitter votre conscience. » Je tirai de dessous ma robe de pèlerin l'épée du commandeur Foulque et je poursuivis. J'ai contracté aussi l'engagement de rapporter dans ce château cette épée qui a appartenu à monsieur de Foulquer. Tout en parlant ainsi, je fis un mouvement pour placer l'arme sur l'autel à côté des pièces d'or. L'ermite m'arrêta du geste. « Non, me dit-il, non, pas ici. Ce n'est pas la place d'une épée si meurtrière et si souvent trempée de sang chrétien. » « Que puis-je donc en faire ? » demandai-je. « Vous la porterez dans l'armurerie, » répliqua-t-il d'un ton brusque. « Elle sera là en compagnie digne d'elle. » Et il sortit de la chapelle avec moi. Chapitre 41. L'armure. Le vieux concierge, auprès duquel il me conduisit de nouveau, m'expliqua que l'armurerie était cette salle dans laquelle je verrais déposer les épées des Foulquer défunts avec celles des adversaires dont ils avaient triomphé. Tel était l'usage établi depuis le siècle de Mélusine et de son mari le comte de Poitou, Geoffroy à la grande dent. Je souhaitais accomplir sans retard la seconde partie de ma pénitence et je demandai à être conduit immédiatement dans l'armurerie. C'est une pièce immense et beaucoup mieux entretenue que les autres pièces du château. Le plafond à poutres saillantes avait été peint de couleurs jadis éclatantes, maintenant presque effacées. Les boiseries de chêne étaient noircies par l'âge. Tout alentour, encadré dans les panneaux de cette boiserie, se voyaient les portraits de tous les sires de Foulquer et ceux des femmes qu'ils avaient épousées. Celui qui me parut le plus curieux était assurément le portrait de Foulque Taillefer, comte d'Angoulême, lequel avait fait bâtir le château de Tête-Foulque pour son bâtard, qui fut créé grand sénéchal de Poitou et devint la souche de la maison de Foulquer. Ce bâtard était précisément le même à qui la combe de l'homme mort devait son nom funeste. L'image de Foulque Taillefer me sembla d'une effrayante et frappante vérité. Le vieux et farouche chevalier était représenté armé de toutes pièces au moment de monter sur son cheval de bataille et saisissant sa ronde hache, laquelle était armoriée de 3 lions léopardés, mort-nés et diffamés. Sous la visière levée de son casque d'acier, les yeux fauves de Foulque Taillefer lançaient les sombres éclairs du commandement et de la menace. On eût dit que Foulque allait quitter le cadre qui le retenait captif et s'élancer au combat en brandissant sa masse d'armes et en poussant son cri de guerre et de carnage. Les autres portraits attestaient également un assez bon fer, quoiqu'ils fussent de travail gothique. Ceux du sénéchal et de sa femme Isabelle de Lusignan étaient placés de chaque côté d'une cheminée haute et large. Le visage du sénéchal exprimait une volonté implacable et une cruauté sauvage. On devinait à le voir que cet homme avait dû verser beaucoup de sang et se complaire au milieu des plaintes et des cris de ses victimes. La physionomie hautaine et dure d'Isabelle de Lusignan ne respirait guère plus que celle de son mari, la douceur et la bienveillance. Je comprenais à merveille qu'on se réjouit dans le pays de l'extinction de cette antique famille des Foulquer. Et je me demandais si Dieu lui-même n'avait pas soutenu de ma main l'épée vengeresse par qui le commandeur avait été frappé. J'oubliais presque en ce moment les saintes paroles de l'Évangile. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Je ne devais point tarder à être puni de ce doute et de cet oubli. Au bas de chacun des portraits se trouvaient des épées de toutes les tailles, de tous les siècles. Ces armes étaient réunies et ajustées en forme de trophées. Je joignis à l'un de ces trophées l'épée du commandeur et je crus me sentir soulagé d'un grand poids. Depuis mon arrivée au château, une véritable tempête s'était déchaînée dans les airs. Les girouettes se plaignaient comme des âmes désolées, et le vent s'engouffrait sous les arcades de la cour d'honneur avec un bruit pareil à celui de la mer en furie. Ce temps infernal et les souffrances que mon genou me faisait éprouver ne me permettaient point de songer à retourner à Poitiers ce même jour. Je demandai au vieux concierge s'il consentirait à me donner à souper et à me laisser passer la nuit au château. « Vous êtes venu, me répondit-il, faire dire des messes pour le repos de l'âme de mon dernier maître, et joindre son épée à celle de ses ancêtres. Vous êtes l'hôte de Foulquer. Soyez le bienvenu ici. Restez-y tant que cela vous conviendra, et comptez que vous n'y manquerez de rien. » Je le remerciai de l'hospitalité qu'il m'accordait, et j'ajoutai : Cette salle est la seule du château qui me paraisse habitable. Ne pourrez-vous pas m'y faire un peu de feu et m'y dresser un lit ?
Oui, sans doute, répliqua-t-il.
Je vous ferai du feu dans cette pièce, et vous y souperez si vous voulez. Mais je ne vous conseille ni d'y coucher, ni d'y rester après minuit. Quel danger pourrais-je y courir ? Ses sourcils se joignirent presque, il secoua la tête et ne répondit point à ma question. Je n'insistai pas. Au bout d'un instant, il reprit. « Croyez-moi, passez la nuit dans ma chambre. Je ne veux pas qu'au château de Tête-Foulque, il arrive malheur à l'hôte des sires de Foulquer. » « Eh bien, soit, lui dis-je, j'accepte votre proposition et je coucherai auprès de vous. » « Et vous aurez raison, me fit-il. Je vais vous allumer du feu, je m'occuperai de votre souper et je vous préparerai un lit à côté du mien. » Il sortit de l'armurerie. J'avais cédé d'autant plus volontiers que nous étions au vendredi, et que, quoique j'espérasse être à tout jamais délivré de ma vision, j'en craignais cependant le retour. Le vieillard reparut au bout d'un instant. Il était chargé de bois qu'il étagea dans la cheminée, sur les lourds chenets en fer massif, et auxquels il mit le feu. Bientôt une flamme vive et pétillante métamorphosa les bûches sèches en un brasier ardent. Le vieillard me quitta en me disant « Je vous apporterai votre souper dans 2 heures. » Aussitôt que je me trouvai seul, je me mis à examiner avec plus d'attention que je n'avais pu le faire auparavant les armes et les portraits contenus dans l'armurerie. Je vous ai déjà dit que l'ouragan grondait au dehors et assombrissait le temps. Nous touchions d'ailleurs à la fin de l'automne. Les jours étaient très courts et la nuit approchait. Peu à peu, à mesure que diminuait la faible clarté du ciel, l'obscurité se faisait dans la salle, et les teintes sombres des vieilles toiles se confondaient avec les panneaux enfumés de la boiserie. Les éclats intermittents du feu de la cheminée répandaient d'instant en instant de vagues lueurs, et ces lueurs ne me laissaient voir que les visages des portraits, leurs yeux menaçants et leurs lèvres muettes. Je me sentis alors dominé par une profonde et invincible épouvante. Il me sembla qu'il allait se passer autour de moi quelque chose d'étrange et de terrible. Peut-être était-ce l'état de ma conscience timorée et le souvenir de l'obsession dont j'étais victime qui m'entretenait ainsi dans un état de trouble permanent et de frayeur continuelle. Toujours est-il que je ne vis rien. Bientôt, le concierge revint. Il apportait de la lumière et mon souper, qu'il servit sur une petite table à pied contournée, qu'il débarrassa préalablement d'une foule de hauberts, d'armets et de cuissards dont elle était encombrée. Ce repas était des plus simples et consistait en un plat de petites carpes et d'écrevisses qu'il avait pêchées dans les fossés du château. Il y avait en outre un pain assez blanc, des herbes cuites et une bouteille de vin de Poitou. « Vais-je donc souper seul ?» lui demandai-je quand il eut étalé ses provisions. « Et avec qui souperiez-vous » répliqua-t-il. « Mais avec l'ermite du château ?» Le vieillard secoua de nouveau la tête. « Je vais lui demander, » dit-il ensuite, « s'il veut partager votre repas. Mais je doute qu'il vienne. » Il sortit et, en effet, il ne tarda point à me répondre que l'ermite me priait de l'excuser, mais qu'il ne vivait que de racines cuites à l'eau et que, d'ailleurs, il ne consentirait jamais à entrer dans l'armurerie. Je me mis donc à table tout seul, et je fis honneur à ce qui m'avait été servi. L'appétit aidant, je trouvai le poisson et les écrevisses délicieusement accommodées. Les herbes me semblèrent exquises, et le vin de Poitou lui-même me sembla presque bon. Dans l'ordre de Malte, il est d'usage et d'obligation pour les chevaliers profets de réciter chaque jour leur bréviaire. Je m'étais toujours fort exactement conformé à cette obligation. Je tirai donc de ma poche mon petit missel, ainsi que le rosaire que je ne quittais jamais, et je me mis en devoir aussitôt après mon repas de commencer l'office. « Vous restez donc ici ?» me demanda le vieux concierge. « Oui, pour un moment encore. Aussitôt que j'aurai fini mes prières, j'irai vous rejoindre. À la bonne heure. »
Montrez-moi seulement par où je devrais passer pour aller vous retrouver.
C'est bien simple. Vous ouvrirez cette porte. Vous descendrez par cet escalier tournant. Et vous ne pourrez manquer de trouver ma chambre, dont je vais laisser la porte ouverte. C'est la 6e après la grande ogive, au 4e repos de l'escalier. Vous entrerez par là dans une allée voûtée qui se termine par une arcade, avec une statue de la bienheureuse Jeanne de France. Vous ne pourrez pas vous y tromper.
Ces indications ne me parurent pas aussi claires que le disait celui qui me les donnait. Cependant, je répondis
« Oh oui, je trouverai sans peine. »
Le vieillard continua. « Un peu avant minuit, dit-il, vous entendrez l'ermite sonner la cloche en faisant sa ronde dans les corridors. Si vous êtes encore ici, descendez sans perdre de temps. Et surtout, surtout, ne vous attardez point passé minuit dans l'armurerie. » Après avoir accompagné cette dernière recommandation d'un regard significatif, le vieux concierge me quitta. Il pouvait être en ce moment 10 heures du soir.
Chapitre 42. Les spectres.
Aussitôt que je me trouvais seule, continua Don Raymond, j'ouvris mon bréviaire et je commençai la lecture de l'office du soir. Mais, je l'avoue, avec un cœur et un esprit inquiets. Je ressentais cette sorte d'effroi vague et indécis qu'inspire le péril inconnu. J'éprouvais cette terreur irréfléchie, fille des ténèbres de la solitude. La petite lampe de cuivre, placée par le concierge sur la table à pied contourné, à côté de la cheminée, répandait une lueur pâle qui ne servait qu'à rendre l'obscurité plus compacte dans tout le reste de la salle. En dehors du cercle lumineux tracé par cette lueur, on ne voyait que des formes confuses et qui, par moments, semblaient mouvantes. Les souffles de la tempête formaient des bruits étranges en s'engouffrant dans les appartements déserts et dans les interminables galeries. Mes regards étaient fixés sur mon missel et j'en lisais machinalement les versets, mais ma pensée errait ailleurs. Malgré moi, je me disais que le château dans lequel je me trouvais dans ce moment avait appartenu à l'homme que j'avais tué. Malgré moi, je me reportais à Malte. Je me retrouvais dans la Strada Stretta. J'assistais à toutes les péripéties de mon duel et j'entendais retentir à mon oreille la voix défaillante du commandeur me disant ces mots, si souvent répétés depuis. « Portez mon épée à tête foulque et faites dire 100 messes pour le repos de mon âme. » dans la chapelle du château. L'heure et le lieu étaient mal choisis, vous en conviendrez, pour évoquer de pareils souvenirs. Plus d'une fois, je songeais à interrompre mes prières et à descendre auprès du concierge. Mais je fus retenu par un faux point d'honneur et par la honte de céder ainsi à une pusillanimité superstitieuse. De temps à autre, je mettais du bois sur le feu afin d'en aviver la flamme et de me procurer ainsi une clarté plus vive. Mais je n'osais point jeter les yeux autour de moi. Il me semblait toujours que j'allais sentir une main se poser sur mon épaule, et qu'en me retournant, je me trouverais face à face avec quelque spectre hideux. Je n'osais pas non plus regarder les portraits de famille. Si j'en fixais un pendant un instant, il me paraissait s'animer. Je croyais en voir les yeux et les lèvres se mouvoir. C'était surtout les figures du grand sénéchal et de sa femme qui semblaient tourner sur moi des yeux courroucés, sans compter que leurs têtes remuaient et qu'ils échangeaient entre eux des regards d'intelligence. Je m'efforçais de mettre ce que je voyais sur le compte du vent qui agitait les vieilles toiles, et j'invoquais les secours de Dieu contre les illuminations du malin esprit et contre les mirages des apparitions infernales. Un peu rassuré par cette prière, je me hasardais à regarder de nouveau le portrait du sénéchal, et je vis, à n'en pouvoir douter, que Foulque Taillefer me faisait du haut de son cadre un geste de menace. En même temps, un coup de vent terrible vint ébranler tous les vitraux, comme si des mains invisibles avaient voulu les briser, et les faisceaux d'armurerie s'agitèrent avec une sorte de cliquetis qui me parut surnaturel. Un bouclier de fer se détacha de l'un d'eux et rendit en tombant sur les dalles un son lugubre et prolongé. Je me pris à trembler malgré moi, et une sueur froide couvrit mon front. Heureusement, j'entendis retentir la cloche de l'ermite. L'heure était venue où je pouvais quitter l'armurerie sans paraître lâche à mes propres yeux. Je pris ma lumière, j'ouvris la porte sans la refermer, et sans regarder derrière moi, je m'enfonçai dans l'escalier tournant. Je n'avais pas atteint le second repos de l'escalier qu'un violent coup de vent éteignit ma lampe. Je remontai précipitamment vers l'armurerie pour la rallumer, car il ne fallait point songer à trouver dans les ténèbres la chambre du concierge. Je jugeai de ce que j'éprouvais lorsqu'au moment de franchir le seuil de la porte, j'aperçus le sénéchal et sa femme qui étaient descendus de leur cadre, l'un avec son armure de bataille, l'autre avec sa robe de drap d'argent et sa collerette empesée, et qui s'étaient assis au coin du feu, en face l'un de l'autre. L'épouvante me cloua sur place, et j'entendis d'une façon distincte la conversation des deux spectres. « Mamie, disait le sénéchal, que vous semble de l'outrecuidance du Castillan, lequel se vient héberger et goberger en Monchastel, après avoir oxy le commandeur, et sans lui vouloir octroyer confession ?»«
Mais sire, répondit le fantôme féminin d'un ton rauque,
mais ta devise, qui celui Castillan, fils forfaitur en se rencontre. Et vraiment, ce roi mal à pointe, qui se départisse de séant, sans que le gant lui jectiez. »
Je perdis la tête, je me précipitai de nouveau dans l'escalier pour aller chercher à tâtons la chambre du concierge. Non seulement je ne parvins point à la trouver, mais encore, je m'égarai complètement dans les ténèbres, et après avoir parcouru un grand nombre de galeries, et descendu et monté je ne sais combien d'escaliers, je m'assis sur une marche, ne me souvenant plus de quel côté était l'arbrerie, ni de quel côté se trouvaient l'arcade et la statue de la bienheureuse Jeanne de France. Après un temps très long que je passais ainsi dans une attente et des inquiétudes mortelles, je tâchais de me persuader que le jour était prêt à paraître et que le coq avait dû chanter. Vous savez sans doute qu'aussitôt après le premier chant du coq, les revenants, quelles que soient les raisons qui les attirent en ce monde, sont forcés par une loi divine de regagner l'ombre et la poussière de leur tombeau. J'essayais surtout de me figurer que tout ce que j'avais cru voir et entendre n'avait existé que dans mon imagination troublée et maladive. Je tenais toujours à la main ma lampe éteinte. Je souhaitais ardemment me coucher et dormir, car j'étais épuisée de fatigue. Je quittai la pierre sur laquelle je m'étais assis et je continuai mes recherches. Au bout de peu d'instants, je trouvai en face de moi un escalier au haut duquel, par une porte ouverte, s'échappait une clarté faible et indécise. Je conjecturai que cette clarté devait provenir des charbons en train de s'éteindre dans la haute cheminée de l'armurerie. Je gravis quelques marches et je vis que je ne me trompais point. Poussé par l'espoir de rallumer ma lampe, je me hasardai jusqu'au seuil et je jetai dans l'appartement un regard timide et tremblant. Les deux figurines gothiques n'étaient plus au coin du feu. Ceci me persuada que j'avais rêvé, et je m'aventurai témérairement en me dirigeant du côté de la cheminée. À peine avais-je quelques pas qu'un éclat de rire ironique retentit à mon côté. Ma lampe s'échappa de mes mains. Isabelle de Lusignan, debout à trois pas de moi, le visage encore contracté par son rire hideux, me montrait du geste le milieu de la salle. Je me retournai, pâle et frissonnant, et je vis messire Foulquer qui m'attendait. Il était en garde et me présentait silencieusement la pointe de son épée. Je voulus m'élancer vers l'escalier. À côté de la porte, sur un socle de granit, se trouvait une figure d'écuyer, armée de toutes pièces, et dont j'avais fait résonner dans la journée la cuirasse sonore et vide. Cette figure descendit de son piédestal, me barra le passage, et me jeta rudement au visage un gantelet de fer qu'elle tenait à la main, et qui me meurtrit douloureusement. Alors, la colère s'empara de moi et remplaça l'épouvante. Je saisis à l'un des trophées d'armes la première épée qui s'offrit à moi. Il se trouva que ce fut celle du commandeur que j'y avais placée, et je me précipitai sur mon fantastique adversaire. Ô terreur ! Mon épée, en heurtant la sienne, n'en tirait ni un son, ni une étincelle. Je le touchais et l'on eût dit que mon arme ne frappait qu'une vapeur. Puis, tout à coup, je ressentis au-dessous du cœur un coup de pointe qui me traversa de part en part et me brûla comme un fer rouge. Je vis mon sang ruisseler et inonder les dalles, et il me sembla que je perdis ma vie avec mon sang.
Chapitre 43 La tache de sang.
Le lendemain matin, je me réveillais sur le lit de la petite chambre du concierge.
Vers les 2 heures du matin, me dit-il, inquiet de ne pas me voir arriver, il s'était muni d'un vase rempli d'eau bénite et d'un rameau de buis béni, et il était venu me chercher. Il m'avait trouvé étendu sans connaissance sur le pavé de l'armurerie. Ma main droite serrait fortement la poignée de l'épée de Foulque de Foulquer, mais je n'avais aucune blessure. Le vieux concierge et l'ermite ne me questionnèrent point sur ce qui s'était passé dans le cours de cette nuit terrible. Mais ils me conseillèrent tous les deux de quitter le château le plus tôt possible. Ce jour même, en effet, je partis de Tête-Foulque pour retourner en Espagne, me croyant à tout jamais délivré des obsessions infernales. Hélas, le vendredi suivant, au milieu de la nuit, je fus réveillé en sursaut par ce même Foulque Taillefer qui me tendait la pointe implacable de son arme. Je fis le signe de la croix. Le spectre parut s'évanouir en fumée, mais je n'en ressentis pas moins le coup d'épée que j'avais cru recevoir dans l'armurerie. Il me sembla aussi que j'étais baigné dans mon sang. Je voulus appeler et sortir de mon lit pour aller chercher du secours, mais l'un et l'autre me furent impossibles, et cette angoisse dura jusqu'au premier chant du coq. Alors, je me rendormis, mais d'un sommeil troublé et la poitrine haletante sous le poids d'un cauchemar incessant. Le lendemain, j'étais malade, et mon état physique et moral pouvait inspirer de la pitié, même à mon plus mortel ennemi. Depuis cette époque, la vision fatale est revenue me visiter toutes les semaines. Vainement, j'ai fait le vœu de ne jamais tirer mon épée du fourreau un vendredi, même pour venger la plus mortelle injure, même dans un cas de légitime défense. Ce serment, monsieur le chevalier, j'y ai manqué ce soir, pour mon malheur peut-être. Vainement aussi j'ai invoqué les secours de la religion et j'ai accompli les plus strictes pratiques d'une dévotion qui, aux yeux de bien des gens, semblerait exagérée. Tout cela a été inutile. Mon existence est un long martyr, et si je n'ai pas mis fin volontairement à cette triste vie, dont le fardeau m'accable, c'est que je ne veux point transgresser la loi divine qui a dit à l'homme « Tu ne porteras point sur toi-même une main criminelle ». Maintenant, vous savez tout, monsieur le chevalier. Maintenant, vous devez comprendre cette sombre et profonde tristesse dont mon visage porte l'empreinte ineffaçable.
Oui, certes, répondit Raoul. Oui, certes, je comprends tout, et je vous plains du plus profond de mon âme.
Que pensez-vous de ce qui m'arrive?
Voulez-vous me permettre d'être franc avec vous?
Non seulement je vous le permets, mais encore je vous le demande avec instance.
Eh bien, je doute de la réalité des apparitions qui vous persécutent si cruellement.
Comment ? S'écria Don Raymond.
Comment ? Vous doutez de ma parole ?
De votre parole ? Répondit Raoul.
Non, certes. À coup sûr, vous êtes de bonne foi. Et tout ce que vous venez de me raconter, vous l'avez vu en effet. Mais il m'est impossible de m'en rapporter d'une façon absolue au témoignage de vos sens.
Ainsi ? Demanda le commandeur. Vous croyez à quelque rêve, à quelque hallucination de ma part?
Je l'avoue.
Vous croyez que mon imagination, frappée par le sanglant résultat de mon duel dans la Strada Stretta et par les dernières paroles de mon adversaire, a seule créé les fantômes qui m'obsèdent?
Sans doute.
Vous croyez enfin que chaque vendredi, c'est un cauchemar qui m'accable et non point une vision qui vient me visiter?
Oui, je crois cela, dit le chevalier.
Eh bien, murmura Don Raymond, regardez et ne doutez plus. Si bronzé que fut Raoul contre toutes les émotions, il ressentit un petit frisson en entendant ces mots. Il lui sembla qu'il allait voir apparaître le cadavre sanglant de Foulquer ou l'image fantastique et bardée de fer du vieux et terrible sénéchal. Mais ses regards se portèrent sur Don Raymond et il comprit le sens des paroles que ce dernier venait de prononcer. D'un seul geste, le commandeur avait fait sauter les boutons de sa veste et il entr'ouvrait sa chemise. « Regardez » répliqua-t-il en indiquant du doigt sa poitrine découverte. Raoul s'approcha. À 2 pouces au-dessous du cœur se voyait une empreinte qui n'était ni une blessure ni une cicatrice. C'était une sorte de tache étroite et longue d'une teinte d'un rouge sombre. On eût dit l'ouverture de la plaie béante produite par la lame d'une épée.
« Voyez-vous ? » demanda Don Raymond.
« Oui, » répondit Raoul. « Mais je ne sais pas ce que je vois. »
« Ce stigmate, » reprit le commandeur, « a été produit par l'arme du sénéchal qui m'a frappé au moment où minuit sonnait. Dans 2 heures, il n'existera plus.
Et maintenant que vous avez vu, doutez encore si vous pouvez. »
Raoul ne répondit point. Il n'y avait pas moyen de nier l'évidence, et cependant sa raison ne pouvait se plier à admettre les parties surnaturelles du récit du commandeur. Il prit le parti du silence. Don Raymond continua.
« Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier de l'hospitalité que vous avez bien voulu m'accorder pendant une partie de la nuit, et de l'attention bienveillante que vous avez prêtée à l'histoire funèbre de mes douleurs. Mon logis est à 2 pas d'ici, et je vais, monsieur le chevalier, prendre congé de vous. »
Raoul n'avait pas de lit à offrir au commandeur. Il n'insista donc point pour le retenir. Seulement, il voulut à toute force l'accompagner jusqu'à la porte de sa maison. Les deux hommes se séparèrent après avoir échangé de mutuelles protestations d'affection et de dévouement. Monsieur de la Tremblay revint chez lui par le passage secret et alla droit à la chambre de Jeanne, qu'il avait quittée précipitamment pour venir trouver Don Raymond à l'hôtellerie du roi Salomon. La jeune femme ne dormait pas. Elle attendait Raoul et les heures d'absence de son mari lui avaient paru d'une interminable longueur. Cette attente, jointe aux terreurs et aux émotions de la soirée, avait fouetté son sang, allumé la fièvre dans ses veines et donné un nouvel éclat à son teint et à ses regards. Elle était d'une beauté vraiment divine et Raoul se sentit comme ébloui. Il s'assit auprès du lit de sa femme, il prit entre les siennes une des belles mains qui se tendaient vers lui et il dit « Jeanne, mon enfant chéri, j'ai été ce soir bien sévère avec vous, n'est-ce pas ?
Le trouvez-vous ? » demanda Jeanne avec un sourire doux et charmant, quoique encore empreint d'un peu de tristesse.
« Oui, » répondit Raoul.
« Sévère et injuste, car cette faute que je vous reprochais, cette démarche imprudente dont je m'irritais, c'est par excès d'amour que vous les aviez commises. »
« Il le comprend, »
murmura la jeune femme avec un vif mouvement de joie.
« Oui, je le comprends, » poursuivit Monsieur de la Tremblay. « Pauvre enfant, vous étiez jalouse.
Raoul, Raoul, dis-moi que j'avais tort. Dis-moi que tu m'aimes, que tu n'aimes que moi, et que tu ne me trompais point. »
s'écria Jeanne avec une fiévreuse exaltation.
Certes, tu avais tort, répliqua Monsieur de la Tremblay, après avoir appuyé passionnément ses lèvres sur les mains de sa femme. De même que tu es la plus belle des créatures, tu en es aussi la plus adorée. La pensée d'un autre amour, ne fût-il que d'une heure, ne peut pas entrer dans un cœur où tu règnes. Et tes soupçons jaloux témoignent envers toi-même aussi bien qu'envers moi d'une injuste méfiance.
« Et cependant, » balbutia Jeanne, « cette femme. »
« Ah, » fit Raoul, « tu n'es pas convaincu. C'est mal. Eh bien, cette femme, cette Antonia Verdi, ne doit inspirer aucun soupçon. Je te jure sur Dieu et sur notre amour que je ne la connais pas, que je ne l'ai jamais vue. »
« Mais alors ?» demanda la jeune femme. « Pourquoi donc t'occuper d'elle ?»«
Tu veux que je te dise ?»«
Je ne l'exige pas, mais je t'en supplie. »«
Eh bien, » répondit Monsieur de la Tremblay, « j'ai tout lieu de supposer qu'Antonia Verdi est affiliée à la police du régent. Et comme cette même police est à ma recherche à la suite de cette prétendue conspiration dont je t'ai déjà parlé, j'ai un intérêt direct à me renseigner au sujet d'Antonia Verdi, de la façon la plus exacte et la plus détaillée. » Cette explication n'était rien moins que claire. Mais Jeanne ne demandait qu'à se laisser persuader, et elle sentit la confiance et la joie renaître à la fois dans son cœur. Tout fut oublié, et la lune de miel se mit à briller de nouveau dans le ciel des jeunes époux. Dans le ciel des jeunes époux.